Il est midi et demi sur France Culture. Bonjour Antoine Mercier.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Après la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël, le mouvement islamiste Hamas appelle à un nouveau soulèvement populaire. Des manifestations étaient prévues à la mi-journée à Ramallah. L'armée israélienne, elle, envoie des renforts en Cisjordanie. Correspondance dans un instant avec Étienne Monin. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou déclare que beaucoup de pays vont suivre les États-Unis dans leur démarche. Nous en parlerons aussi avec notre invité Jean-Paul Chagnolot. La visite d'Emmanuel Macron au Qatar avec le montant total des contrats signés ce matin qui s'élève à près de 12 milliards d'euros, affirme le chef de l'État. Précision sur ce voyage avec Nabila Hamel. Le cours du Bitcoin poursuit son envolée aujourd'hui et dépasse pour la première fois de son histoire le seuil des 15 000 dollars, soit un bond de plus de 50% en une semaine. Tentative d'explication dans cette édition avec l'économiste Daniel Cohen. L'enquête annuelle de l'Observatoire national de la délinquance, le terrorisme s'est imposé comme le premier sujet de préoccupation des Français et devançant ainsi le chômage. Compte rendu de cette enquête avec François-Pierre Noël. Et puis l'art du pizzaiolo napolitain qui fait son entrée aux côtés d'autres trésors culturels comme la décoration murale traditionnelle saoudienne au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Détail avec Camille Magnard. Dans la dernière partie de la Grande Table, Olivier Gesbert.
Comment les conflits exacerbent les rapports de domination et transforment le corps des femmes en champ de bataille, le viol comme arme de guerre. On en parle avec nos invités, la documentariste Manon Loiseau qui a réalisé Syrie, le cri étouffé diffusé mardi sur France 2 et l'historien Fabrice Virgili.
Et on commence par ces risques de regain de tension au Proche-Orient après cette décision de Donald Trump, très commentée depuis hier soir, de reconnaître Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël. Le mouvement Hamas a donc appelé un nouveau soulèvement populaire. On ne peut pas faire face à la politique sioniste soutenue par les États-Unis qu'en lançant une nouvelle intifada, affirme le chef du Hamas, donc Ismaël Haniyeh. Discours prononcé depuis la bande de Gaza. L'armée israélienne a envoyé ce matin des renforts en Cisjordanie. Et puis il y a des manifestations qui étaient prévues à la mi-journée du côté de Ramallah. Étienne Monin, bonjour.
Bonjour.
Tension accrue, pas d'incident majeur à signaler pour le moment?
Non, on est surtout sur effectivement la tension, le risque, l'inquiétude à Jérusalem. Il y a eu quelques tensions fortes entre la police et quelques dizaines de manifestants. À Ramallah, ils sont assez nombreux à se rassembler pour l'instant et on signale des clashs surtout du côté de Gaza au niveau de la frontière. Mais on est encore dans un face-à-face et dans une prise de température. Ce qu'on peut voir aujourd'hui à Jérusalem-Est, par contre, ce sont les rideaux des magasins qui sont fermés en signe de protestation. Le jour d'après ici est marqué par un état de choc. Les Palestiniens de Jérusalem-Est veulent faire entendre leur opposition à cette rupture dans la politique américaine. L'appel à la grève est assez bien suivi. Il témoigne aussi du manque de levier politique pour faire avancer la cause palestinienne dans cette partie est de la ville. Et ce qui se dit ce matin dans la rue, c'est que le simple fait de rester dans le secteur, de vivre finalement toujours comme Palestinien à Jérusalem-Est, eh bien, c'est ça la résistance. Il faut continuer sur cette voie, conscient que l'autorité palestinienne n'a pas prise sur la situation. Maintenant, les extrêmes pourraient gagner du terrain dans cette absence d'espoir. C'est ce qu'exprime un chauffeur de taxi qui estime que toutes les options politiques ont échoué, qu'il ne reste finalement plus que la résistance armée sur le modèle du Hamas qui, lui, réussit à défendre son territoire grâce aux armes.
Voilà, quelques petites coupures, mais on va continuer quand même avec vous, Étienne Monin, parce que le Premier ministre israélien a exprimé hier sa satisfaction. Benjamin Netanyahou affirme que le président américain est entré à jamais dans l'histoire de Jérusalem. Comment, du côté israélien aussi, on réagit plus largement?
Ah oui, c'est une immense satisfaction, c'est un moment historique en Israël. Et si on va dans la rue au niveau des anonymes, ce qu'on entend ce matin, c'est que c'est un état de fait, finalement, reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, c'est une évidence. Ça aurait dû être fait depuis longtemps. Les Palestiniens s'en accommoderont. Jérusalem, faut savoir, est une et indivisible depuis 1980 dans la loi fondamentale israélienne. C'est un thème qui traverse les courants politiques. L'actuel leader du Parti travailliste défend cette position, le centre également, d'autant que le président américain, dans sa déclaration, n'a pour l'instant pas exigé de contrepartie politique douloureuse. La seule inquiétude pour leur côté israélien, c'est sur le volet sécuritaire.
Alors encore un mot, parce que le Premier ministre déclarait hier que beaucoup de pays allaient suivre les États-Unis dans cette reconnaissance de Jérusalem, donc, car, dit-il, l'heure est venue. Il affirme qu'il y a des contacts qui sont déjà en cours. Est-ce qu'on sait pour quel pays?
Alors, pour l'instant, ce qu'on sait concrètement, c'est que les Philippines s'attendent à faire, enfin souhaitent faire, donc le déménagement de leur ambassade, que la République tchèque a fait savoir qu'elle reconnaissait la partie ouest de Jérusalem, ce qui n'a pas la même portée que la ville dans son intégralité. Et d'après la presse israélienne, l'ambassadeur de Russie aurait également signalé l'intérêt du pays pour un déménagement, ce qui entre en contradiction avec la façon dont la Russie a exprimé son inquiétude après l'intervention de Donald Trump. Mais côté israélien, évidemment, on cherche à capitaliser. Benjamin Netanyahou a beaucoup voyagé ces derniers temps pour parfaire la situation diplomatique de son pays. Il espère maintenant des résultats.
Merci beaucoup. Étienne Menin, donc en direct de Jérusalem. On salue l'invité de cette édition, le politologue Jean-Paul Chagnolo. Bonjour monsieur.
Bonjour.
En quoi ce mercredi 6 décembre, donc hier, jour de la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, en quoi ce mercredi 6 décembre change-t-il la situation géopolitique dans la région ?
Je crois que sur beaucoup de plans, je pense surtout que c'est une reconnaissance qui est évidemment par définition unilatérale et qu'elle conforte des positions qui sont les positions du gouvernement israélien qui souhaitait depuis longtemps cette reconnaissance. Et en même temps, elle est tout à fait contraire au droit international. Il y a un an exactement, presque exactement, c'était le 26 décembre 2016, il y avait une résolution du Conseil de sécurité qui a été voté à l'unanimité, moins une abstention des États-Unis, mais ça veut dire que les États-Unis soutenaient cette résolution qui disait en substance que on ne peut pas acquérir de territoire par la force. Et Jérusalem-Est est un territoire occupé au sens de la résolution dont je parle maintenant. Donc on est vraiment dans une situation où il y a une rupture complète, pas simplement de la politique que menaient les États-Unis jusqu'alors, mais d'essayer d'être le médiateur mais entre Israéliens et Palestiniens. Mais en plus, c'est vraiment une violation du droit international. Et en ce sens, cela m'étonnerait beaucoup qu'il y ait beaucoup de pays qui rejoignent cette position sur le plan international, à part sans doute quelques obligés dans les relations internationales. On a vu la réaction des Européens qui ne sont pas du tout d'accord. Et puis ce que vous venez d'entendre à l'instant, c'est très important. C'est très nuancé et très subtil, mais il faut bien le souligner. Si j'ai bien compris, la République tchèque annonce qu'elle va reconnaître, mais elle a précisé, si j'ai bien compris, le Jérusalem Ouest. Ouais. Et ça, c'est très important parce qu'il faut savoir que la République tchèque était un des pays qui avait voté non. Ils étaient 9 au total lors de l'admission de la Palestine comme État observateur en 2012. Donc c'était un des États les plus proches des États-Unis. Or même celui-là qui était très proche des États-Unis dit « Ouest, oui, mais pas l'Est ». Et ça change tout car évidemment ça préserve l'idée qu'à Jérusalem-Est, eh bien, ça pourrait être la capitale d'un État palestinien.
Est-ce que vous voyez, vous, une idée géopolitique, une stratégie dans cette décision de Trump ?
Franchement, si on prend la politique conduite par Trump depuis ces derniers mois, c'est très difficile d'y voir une stratégie. Moi, j'y vois plutôt, en réalité, une tension entre la politique intérieure et la politique extérieure. Je pense vraiment qu'il est là pour, en fait, conforter son électorat, et en particulier ce qu'on appelle les sionistes chrétiens, qui représentent une part importante. 80% des sionistes chrétiens ont voté, enfin des évangéliques comme on dit, ont voté pour Trump. Et quand on regarde ce qu'on appelle la ceinture de la Bible, c'est « the Bible's belt ouais. », et les États qui ont voté très largement, à plus de 60% pour Trump, on voit bien que c'est bien cet électorat. Donc je pense que c'est par rapport à cela. Et d'ailleurs, on a vu la réaction d'un certain nombre de responsables de ces communautés. Donc on est dans cette espèce de il s'arc-boute sur son propre électorat, sans penser vraiment à une stratégie internationale. Il va avoir beaucoup de mal, car il est pour l'instant très isolé.
On reparle de tout ça, peut-être plus globalement, tout à l'heure, dans la séquence interview. Jean-Paul Chagnolo, merci pour ce premier commentaire. Encore un mot sur la situation régionale, puisque ce matin, Emmanuel Macron était au Qatar. Une visite qui s'est soldée par la signature de 12 milliards de contrats. Le Qatar qui signe notamment la levée de l'option sur l'achat de 12 avions de combat Rafale supplémentaires, une lettre d'intention pour 490 blindés Nexter et un contrat d'exploitation et de maintenance du métro de Doha. Mais le chef de l'État est aussi revenu sur la position de la France face à l'Iran.
Je souhaite pour ma part que nous ouvrions deux autres types de discussions. Une discussion de type militaro-stratégique relative à l'activité balistique de l'Iran dans la région. L'autre pilier qui me semble indispensable d'ouvrir, c'est une discussion stratégique sur la présence régionale de l'Iran et c'est les limites que nous devons mettre collectivement et en transparence à cette présence. Il y a aujourd'hui en Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen, une présence forte qui crée beaucoup de tensions dans la région. Je pense que si nous souhaitons pacifier la région, ce qui est une nécessité pour nous tous, il est important d'avoir ce dialogue stratégique et de donner un cadre à cette présence. L'Iran reste une puissance régionale qui fait peur à beaucoup d'autres pays, y compris nos alliés dans la région, mais qui a un grand peuple qu'il faut respecter, avec lequel la France doit discuter.
Voilà donc Emmanuel Macron, déclaration sur l'Iran il y a quelques minutes. Donc au Qatar, Nabila Hamel, vous avez aussi assisté à cette conférence de presse donc, qui vient de s'achever à Doha, et le chef de l'État a passé en revue les autres enjeux régionaux.
Il en a parlé ce matin lors de sa visite au commandement américain de la base d'El Obeid et aux troupes françaises à qui il a rendu visite. Emmanuel Macron fait de la lutte antiterroriste et de la radicalisation sa priorité. Il en a été beaucoup question lors de la conférence de presse, d'autant que la France compte organiser bientôt une conférence sur le sujet. Pour Emmanuel Macron, il faut des méthodes opérationnelles et simples et mettre le savoir de tous pour démanteler tous ces réseaux, les identifier et couper leur financement. Interrogé lors de cette conférence de presse sur la décision américaine à propos de Jérusalem, le président français relève que c'est une décision unilatérale qu'il dit désapprouvée car en contradiction avec les résolutions de l'ONU. Pour lui, une solution doit être trouvée par une négociation entre Israéliens et palestiniens. Quant à l'autre crise régionale qui oppose le Qatar à ses voisins, notamment l'Arabie Saoudite, Emmanuel Macron a réaffirmé soutenir la médiation koweïtienne et considère le sommet d'hier du Conseil de coopération du Golfe comme un encouragement.
Compte rendu de Nabila Hamel à Doha.
Midi 42 sur France Culture, la suite du journal d'Antoine Mercier avec le terrorisme qui s'est imposé comme le premier sujet de préoccupation des Français devant le chômage.
Oui, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales et l'Institut national de la statistique dévoilent en effet leur 11e enquête annuelle au cours de laquelle 16 000 personnes au total ont été interrogées. Il faut préciser que cette collecte s'est déroulée après l'attentat du 14 juillet à Nice notamment. Il n'en reste pas moins que François-Pierre Noël, ce dépassement, donc le terrorisme devant le chômage est bien significatif de l'état de l'opinion.
Oui, en à peine 3 ans, Antoine, le nombre de Français préoccupés par le terrorisme a été multiplié par 10. Alors forcément, les attentats perpétrés en France depuis 2015 ont renforcé ce sentiment d'insécurité. Et selon ce rapport, plus on est jeune et plus on est préoccupé par le terrorisme. La moitié des adolescents interrogés citent le terrorisme comme principal sujet de préoccupation, alors que seulement un quart des plus de 50 ans s'en inquiète. Les jeunes craignent d'être davantage des cibles pour les terroristes, car ce sont eux qui sortent le plus dans les bars ou les événements sportifs. Ça faisait 10 ans que le chômage était le sujet d'inquiétude de numéro 1 des Français. Alors comment expliquer ce changement de sentiment de la part des Français? L'économie ne va pas spécialement mieux, le chômage ne baisse pas ou très peu, mais la crainte terroriste devient plus forte. Christophe Soulez, directeur de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales.
Ça veut peut-être dire qu'il y a un décalage, une déconnexion à un moment donné entre la perception d'un risque et effectivement sa situation personnelle. Peut-être que là aussi, voilà, la population, en tout cas, a plutôt tendance à penser que même si les chiffres, je dirais, de l'emploi sont toujours, je dirais, à peu près au même niveau depuis 3-4 ans, que les mesures économiques qui sont mises en place, que les dispositifs qui vont être mis en œuvre peuvent améliorer la situation, et c'est aussi peut-être le fait qu'ils pensent que la menace terroriste est peut-être beaucoup plus difficile à contrôler que les dispositifs qui peuvent être mis en place pour améliorer la situation économique du pays.
Autre élément d'explication, le terrorisme est beaucoup plus présent dans notre quotidien, que ce soit avec la forte présence policière et militaire dans les rues, avec le plan Vigipirate, mais aussi avec la médiatisation de plus en plus importante des risques et des tentatives d'attentats sur le pays. Le terrorisme, c'est aussi un thème qui est revenu souvent dans les discours des politiques français.
François-Pierre Noël, merci.
Le cours du Bitcoin poursuit son envolée jeudi. Il dépasse pour la première fois de son histoire le seuil des 15 000 dollars, soit un bond de plus de 50% en une semaine.
Et oui, c'est le lancement de contrats sans doute à terme sur le Bitcoin qui, ce week-end, va lui donner une crédibilité justifiée. Il y a de nombreux professionnels des marchés qui s'inquiètent que cette étape ne soit source de nouveaux risques pour un instrument financier qui est déjà très volatile. Et pour en parler, on est en ligne avec l'économiste Daniel Cohen. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça signifie cette hausse du Bitcoin selon vous? Simplement, si on peut l'expliquer simplement.
Bah écoutez, c'est d'abord tout simplement la manifestation récurrente de l'appétence de nos sociétés pour les bulles financières. On est dans un monde où depuis maintenant plusieurs années, les taux d'intérêt sont très faibles, les gens cherchent du rendement, et donc on sait que c'est toujours dans des circonstances comme celle-là que les bulles financières explosent. On veut gagner de l'argent, on ne vous en offre pas. Dès qu'il y a la promesse d'un Eldorado nouveau, tout le monde se jette dessus, donc c'est assez banal, c'est classique, c'est récurrent. Alors maintenant, il y a des choses spécifiques. Il y a l'envol de l'intelligence artificielle, ça fait un peu penser à la bulle Internet dans les années 90. Les gens veulent investir dans ces nouvelles technologies, on leur offre un produit qui est à soi-même une technologie nouvelle, ça les fascine aussi, et ça fait aussi marcher le public. Maintenant, il y a un troisième point qui est un peu différent des deux précédents, même si c'est lié naturellement, c'est cette idée que le Bitcoin va offrir une monnaie universelle au-delà des États. La nouvelle technologie produirait sa nouvelle monnaie qui transcendrait les contingences habituelles du ici et maintenant de l'euro, du dollar. Et ça,
c'est le pari qui est fait, ça. C'est le pari qui est fait. Est-il totalement absurde, ce pari?
Oui. Alors, ce pari est absurde jusqu'à un certain point. Il est absurde parce que on a besoin de monnaie légale dans le monde d'aujourd'hui, ne serait-ce que pour pouvoir payer ses impôts. Les monnaies ont cours légal, ce que ça veut dire, c'est que pour être un citoyen ordinaire et payer vos contraventions, etc., vous avez besoin de dollars ou d'euros. Vous ne pourrez jamais payer vos impôts en bitcoin. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire avec le bitcoin? Eh bien, justement, échapper à l'impôt. Et la grande promesse silencieuse du bitcoin, c'est d'offrir une monnaie parallèle pour le PIB parallèle, pour toutes ces transactions qui en réalité cherchent à fuir la sphère légale. Et c'est là qu'on est au cœur, on va dire, du malentendu, de la contradiction. Si en effet, toutes les mafias du monde décidaient que le bitcoin c'est leur monnaie, alors oui, ça vaudrait la peine de parier sur le bitcoin, parce que l'économie parallèle, c'est trois fois la France, enfin au niveau mondial. C'est des économies, c'est des ressources et des transactions considérables. Et si le bitcoin s'imposait comme la monnaie de transaction dans cet espace, encore une fois, clandestin, illégal, parallèle, oui, ça prendrait de la valeur. La question, c'est jusqu'où les autorités légales vont accepter qu'une monnaie serve pour échapper à leur vigilance. Voilà, c'est ça la question. Je crois qu'il y a une course de vitesse. Et évidemment, les États décidaient un jour que les paradis fiscaux et les monnaies qui sont elles aussi des paradis fiscaux étaient interdites, je crois que le Bitcoin en prendrait pour son grade et serait très vite démonétisé. On est dans cette période intermédiaire où on se dit que ça peut passer et qu'on dispose ainsi d'une monnaie qui circule sous les radars des États. Et ça, effectivement, c'est attirant pour tous ceux qui sont intéressés par sortir du système public.
Voilà. Merci beaucoup, Daniel Cohen, pour ces éclaircissements. Effectivement, en tout cas, il y a des enjeux considérables, on le voit, et notamment le risque aussi d'éclatement de cette bulle à un moment donné. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Avant de revenir à la situation internationale, un petit mot de l'UNESCO qui complète ce matin sa liste du patrimoine immatériel de l'humanité. Cette année, donc, l'art du pizzaiolo napolitain qui fait valser la pâte dans les airs a fait son entrée remarquée aux côtés d'autres trésors culturels comme par exemple la décoration murale traditionnelle saoudienne, le plus souvent exécutée par les femmes. Camille Magnard, bonjour.
Bonjour Antoine.
Vous avez regardé donc cette liste ce matin complète de ce qui entre au patrimoine immatériel de l'humanité.
Antoine, vous avez cité les deux lauréats de cette année les plus emblématiques, mais il ne faut pas oublier également consacré donc par l'UNESCO le langage sifflé des montagnards turcs, la danse martiale taskiwin du haut atlas marocain, les nattes tissées chitalpati du Bangladesh, ou encore mon préféré, le kokboru, ce jeu équestre traditionnel des hauts plateaux du Kirghizistan, cette variante du polo, à cette différence près que le terrain de jeu, eh bien c'est la plaine tout entière et que la balle est remplacée par la carcasse d'une chèvre égorgée juste avant le début de la partie.
Alors voilà donc pour cette année, cette liste a été créée en 2003, elle compterait déjà 365 entrées, elle rassemble, on l'a compris, des traditions diverses, des formes d'art ou des célébrations, c'est une façon de préserver un patrimoine, mais aussi ça signifie sans doute que ce patrimoine est menacé et peut-être qu'on est en train de le figer dans une forme de folklore touristique.
Et c'est d'ailleurs tout le malentendu que regrette l'UNESCO elle-même. Il y a 15 ans, elle avait lancé cette liste représentative du patrimoine culturel immatériel mondial avec l'idée qu'il ne devait pas y avoir de palmarès, richesse, mais une simple mise en valeur de ce patrimoine. Il s'agissait de ne plus valoriser seulement les vieilles pierres, les vestiges des civilisations sédentaires et donc des dominants, mais aussi de donner une place à l'oralité, au savoir-faire et aux traditions spontanées, populaires et menacées, c'est vrai, dans leur transmission par l'uniformisation d'une culture mondialisée. Sauf que 15 ans plus tard, ce classement, car c'en est bien devenu un, revient chaque hiver comme une sorte d'Eurovision de la coutume locale. Les États y rivalisent de diplomatie pour arracher ce logo UNESCO qui fait vendre, mais qui fait aussi des cultures mises en avant, des arguments commerciaux. Un artisanat menacé sera sauvé, oui, mais il le sera dans les vitrines des boutiques d'aéroports. Des contes transmis depuis des générations par tradition orale seront réécrits pour complaire aux attentes du public globalisé. Des fêtes de village se dissoudront dans le flot des quarts de touristes. L'expression d'une minorité sera aseptisée par le pouvoir central qui se vante de l'avoir sauvegardée. Bref, les rites deviennent des spectacles et sont trop souvent dénaturés. Au passage, un petit exemple, je reviens à ma marotte kirghize et ce jeu équestre du coq borou. Pour ne pas heurter le jury de l'UNESCO et les touristes, depuis quelques années, on a tendance là-bas à remplacer la carcasse de chèvre par un moulage ou bien par un simple ballon. Et le jeu ancestral en fait perd peu à peu du terrain dans les alpages kirghizes où se développe la pratique du horseball, un sport dont les règles ont été codifiées en France dans les années 1930.
Voilà, les traditions sont priées de rester politiquement correctes. Merci beaucoup Camille Magnard. Bah, Jean-Paul Chagnolot, retour vers vous. Vous êtes notre invité aujourd'hui. Finalement, ça dit quelque chose aussi de l'état du monde, la manière dont l'UNESCO essaye de sauver des patrimoines qui sont en train de disparaître et peut-être de les transformer ou de les pétrifier, et que cette mondialisation finalement apporte aussi une perte des particularités.
Alors, je crois que c'est une des grandes questions qui traverse aujourd'hui les relations internationales sur un plan culturel, politique et idéologique. Et en fait, il y a une volonté de beaucoup de groupes d'essayer de retrouver leurs identités. Mais dans ce que vous avez décrit, c'est un peu l'inverse. Il y a une sorte d'illusion quelque part. Mais je crois que c'est fondamental aussi, quoi.
Alors, on revient à votre région, si je puis dire, la région dont vous êtes spécialiste, Proche-Orient, Moyen-Orient, au sens large, parce qu'on a parlé, évidemment, de la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d'État d'Israël par les États-Unis. On a entendu Emmanuel Macron parler aussi, ce matin, à Doha, de l'Iran, où il a dit qu'il fallait aussi... non seulement parler du nucléaire, mais aussi des missiles balistiques, etc. Donc on sent bien que le conflit est encore fort. Israël-Palestine, Iran, Arabie Saoudite, chiites, sunnites, des lignes de fracture, on le voit, qui se creusent un peu plus chaque jour avec une situation volatile. On se demande d'où peut partir éventuellement l'embrasement de cette région. Quel est votre sentiment global ?
Je crois qu'effectivement, nous sommes dans une période où les fractures, comme vous le dites, sont multiples, un peu comme s'il y avait plusieurs épicentres de tremblements de terre possibles. Et dans cette constellation complexe, je pense qu'il y a, aujourd'hui des déséquilibres de force très importants. Et c'est pourquoi vous évoquez la France. Je pense que la France a un rôle majeur à jouer. Aujourd'hui, l'Europe est absente. Les États-Unis ont complètement perdu la main. Et c'est pas avec ce qu'a fait Trump hier qu'il va pouvoir récupérer une véritable influence dans la région. Donc la France peut jouer un rôle vraiment très important, à condition que ce soit pas simplement un rôle, disons, qui consiste à prendre des positions par la parole, mais aussi que quelques actes soient faits. Donc je crois que l'idée de vouloir être une forme de médiateur entre, je n'irai pas entre sunnites et chiites, parce que c'est beaucoup plus complexe, même s'il y a une dimension évidente, sunnites-chiites, je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui une structuration de la région du Moyen-Orient autour de deux capitales, mais qui sont en fait des puissances régionales. Oui. On est d'abord dans des rapports de domination politique.
Arabie Saoudite, Iran.
Entre Riyad et Téhéran, oui. Absolument. Oui. Alors évidemment, ça recoupe dans une certaine mesure la dimension sunnite et chiite, mais je crois vraiment que c'est plus complexe que ça, et c'est vraiment un rapport de domination de l'une et de l'autre dans la région, étant entendu que les capitales arabes qui avant structuraient la région, je pense à Bagdad, à Damas, au Caire, ces capitales ont disparu pour des raisons que chacun connaît aujourd'hui dans des drames. Donc on est dans cette espèce de trou béant où deux pays s'affrontent. Et donc la France a un rôle à jouer en ne prenant pas part à ce conflit. Et je pense que le fait, par exemple, d'être au Qatar est une mesure intelligente, parce que il était à Riyad il n'y a pas très longtemps, on se souvient de l'affaire Hariri. Il a exfiltré, entre guillemets, Hariri, le premier ministre libanais. Et je pense que c'est une politique assez subtile, qui consiste à dire au Qatar, du Qatar, il dit des choses à l'égard de l'Iran, mais aussi, en étant présent au Qatar, il dit des choses à l'Arabie Saoudite. Voilà. Et pour revenir à notre débat de tout à l'heure, je pense que la France aurait intérêt, me semble-t-il, à prendre une position claire sur ce qu'a dit Trump. Et ça renforcerait sa capacité d'action et d'influence, en tout cas dans un premier temps, au Moyen-Orient. Je pense que on peut espérer que la France prenne des positions. Alors, je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à la reconnaissance d'un État palestinien pour pouvoir rappeler que c'est le droit international. Mais en tout cas, il y a une ligne qui me paraît essentielle à mener pour la France, c'est justement la défense du droit international. On a voté des résolutions, comme je l'évoquais tout à l'heure, que la France se mette s'arc-boute sur le droit international. Je pense que ce serait extrêmement positif.
Ouais, vous dites que la France, malgré tout, il y a deux grandes puissances régionales, effectivement, Iran, Arabie Saoudite, avec quand même, peut-être aujourd'hui, l'Iran qui semble avoir la main, parce que sur le terrain, elle a réussi à s'étendre, si je puis dire, étendre son influence à l'occasion des conflits. C'est dans le rapport de force que se règlent aussi ces questions géopolitiques.
Oui, mais si on prend la question, tout à fait. Si on prend la question de l'Iran, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les Iraniens, les responsables iraniens, sont évidemment obsédés par l'Arabie Saoudite. Ils ont vraiment une crainte de l'Arabie Saoudite et des alliances que l'Arabie est en train de conduire. Mais ils ont aussi une autre obsession à laquelle il faut être très attentif, c'est qu'ils ne voudraient pas que l'accord sur le nucléaire soit fragilisé. Or, Trump a commencé à s'en retirer. Il ne faut pas oublier que c'est un accord qui n'est pas entre les Américains et les Iraniens, mais entre les membres du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne et l'Iran. Et donc, là aussi, je pense qu'un des messages à faire passer à l'Iran, ce qu'ils sont d'ailleurs très demandeurs. J'ai rencontré des responsables iraniens il n'y a pas très longtemps qui me disaient cela. Nous souhaitons que les Européens, les signataires, renforcent, confortent l'accord sur le nucléaire. Et je pense que c'est important parce que c'était un des rares éléments de stabilisation relative de cette région en plein chaos.
Merci beaucoup Jean-Paul Chagnolo d'être venu dans ce studio pour nous parler de cette situation régionale. On finit par une question sans doute de moindre importance, mais tout de même, les Champs-Élysées ou pas les Champs-Élysées pour Johnny Hallyday, après les hommages nombreux et unanimes qui ont suivi l'annonce de sa mort, l'heure est désormais au préparatif d'une cérémonie d'adieu à la hauteur de celui que le président Macron a qualifié de héros français, cérémonie dont les détails sont attendus peut-être cet après-midi, qui pourrait avoir lieu samedi à Paris. Le Parisien, par exemple, évoque le scénario d'un cortège funéraire qui descendrait les Champs-Élysées avec une cérémonie à l'église de la Madeleine. Un ciel qui va rester gris, plutôt bas, avec quelques trouées seulement de soleil sur la moitié nord. Le vent de sud à sud-ouest sera modéré près de la Manche. Au sud, en revanche, la grisaille va évoluer plus favorablement, va laisser cet après-midi la place à un temps généralement bien ensoleillé. Les températures de 3 à 15 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.